nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. La journée, la rue, paraît moins lugubre que la nuit. La ville semble mieux. On le dirait une ville après un bombardement. Des ponts écroulés, la place Delcourt transformée en bidonville, plein de cabanes en carton, fagots, plastique. Il y a des jeunes en loques qui font de la musique en tapant sur des bidons d'essence vides. Des détritus de partout, de vieilles voitures défoncées, des fils d'étendage pour étendre des loques, ça crie, ça rit. Le sol est devenu de la boue, plein de rigoles, fuite faite de pisse, de lessive, d'alimentation. Sur les toits des baraques, il y a des antennes de télévision et même des paraboles. On entend, en passant, la télévision. En plus, il y a des disputes. On se bat beaucoup. On boit sec. La statue Louis XIV est pleine de graffitis peints rouges. Le cheval a perdu sa tête. On a mis à place une poubelle renversée. On avait fait même pendre du linge sur la statue. Les immeubles qui entourent la place sont en ruine. Il n'y a plus de circulation. De la place, l'on voit la basilique à moitié en ruine. Il manque le côté gauche. On dirait un château en ruine. La rue de la République est devenue tout son long un immense marché aux puces de voleurs. Il y a des saltimbanques qui chantent, des lanceurs de feu, des jongleurs. Les magasins sont fermés. Il n'y a pas de boutique. On met les objets à terre et on s'assoit en tailleur. La plupart des immeubles sont en mauvais état. Ils ont des trous, des traces d'incendie, des trous d'artillerie. Certains sont complètement en ruine. Du cinéma, le Panthé, il ne reste qu'un tas de ferraille, des charpentes métalliques et un bout de mur qui est resté debout où se trouvent des fixations de fauteuils. Un soir, une bande de jeunes, en regardant un film, ont mis le feu. Ils se sont battus. L'opéra de Lyon ne reste plus que la carcasse métallique et des pans de mur. Le sol est plein de canettes de bière, coca, carton, papier, McDo. Les gens y viennent pour discuter et fumer. Ils aiment aussi c'est monter sur les carcasses de ferraille qui ont la charpente de l'opéra. Il semble un peu un échafaudage. Ils aiment y monter et passer la nuit en haut, en équilibre sur les barres. Une nuit, un jeune est tombé. Il a peut-être été poussé ou s'est suicidé ou tout simplement il a perdu l'équilibre tout seul. L'hôtel de ville, il ne reste plus que le rez-de-chaussée. Le reste a été brûlé par des grévistes, des employés de la ville qui demandaient une augmentation.
Il n'y a pas un bruit, le jour ou la nuit, et l'on tombe dans l'ennui. Enfin, que peut faire le célibataire lorsqu'il vit célibataire? C'est pas comme ça quand on aime. La femme a quelle satisfaction. Avec elle, la porte en même. Des amusements, des distractions. Son chien qui vit bien sa mère. Le goût, le jour et la nuit. Son chapelet bien goûté. Ses canards font le cri-cri. Si elle voit que ça vous embête, elle se sourit avec la trouvaille. Je sais qu'il n'aime pas les belles.
La place Hétéro est devenue le coin des jeunes. Ils habitent à la nudiste et se purifient dans l'eau de la fontaine. Ils se baignent nus dans la fontaine et boivent l'eau. On a recouvert la statue équestre d'un tissu jaune vif. On y joue de la musique indienne. On y prie, on y mange, on y fait l'amour. Les jeunes sont sales, sentent mauvais, Les garçons ont des cheveux longs et barbes. Ils sont très maigres. Les filles, en tailleur, font téter leurs seins maigres à des bébés squelettiques. Pour ce qui est des pentes de la Croix-Rousse, on peut dire qu'elles ont moins souffert que le reste de la ville, à part certaines ruines. Peut-être parce que ceux qui faisaient le bazar mettaient le feu et vivaient sur les bancs de la Croix-Rousse et qu'ils ne voulaient pas, qu'ils voulaient préserver leurs environnements. On leur a peut-être donné l'ordre de le faire pour emmerder, comme ils disent, la municipalité. Malgré tout, les pentes ont bien changé. Avec les squatteurs, les drogués, les putes, les marginaux, de toutes sortes et de toute origine. Elle ressemble à une ville d'Afrique. Comme cela, à Lyon, on fait le tour du monde de la pauvreté. La place de Villecourt, l'Amérique du Sud, la place des Terreaux, l'Inde, les pentes de la Croix-Rousse, l'Afrique, le Péra, New York, etc., etc. Le centre commercial de la Part-Dieu est devenu le refuge de tous les marginaux qui débarquent ou qui débarquaient avant dans un port. Mais là, c'est pas... C'est par car, métro, train, faut bien garer, ils débarquent comme on débarquait avant dans le Nouveau Monde, en 1800, avec ses affaires, dans un sac en plastique, dans le centre. Ils vont chercher un endroit tranquille. Pour y mettre ses affaires et trafiquer des choses. Les gens qui sont dans le centre n'en sortent pas. Ils y rentrent et ils y restent. Ils sortent une fois morts. La plupart des magasins sont fermés. Moindre coin coûte cher. Il faut se battre pour avoir une place et la garder. C'est la loi de la jungle. Le centre, malgré qu'il ne soit plus un centre commercial, on continue à le chauffer et avoir de l'électricité. Pour raison humanitaire, on ne peut pas laisser les gens à la rue. Comme je ne peux pas tout vous dire ce que c'est qu'une cour des miracles, on y trouve de tout. On y cherche des coins pour y mettre des affaires. Il y en a partout. Il y a des gens qui sont débraillés, qui font des trafics de tout et de n'importe quoi. Ça va de la drogue, à l'alcool, prostitution, fringues et un peu de nourriture. Une vie parallèle s'est installée ici, hors la loi, immense cour des miracles. La fontaine du centre commercial sert pour prendre de l'eau, pour se laver, boire, faire le linge. On fait du feu, amène le sol pour se chauffer ou se nourrir. Ça sent mauvais, c'est sale. Voilà en gros Lyon, sans compter les églises occupées par des illuminés de toutes sortes, les SDF, etc. Donc voici Lyon que voient John et Frédéric. Les bords du Rhône, de la Saône, qui sont pleins de SDF, avec des bagarres. Des linges qui pend, des baraques, des cris, des rires, de la musique. Des péniches à quai sont squattées. Frédéric dit, tu crois qu'on peut vivre dans tout ça? Elle lui dit, il doit bien y avoir des quartiers plus tranquilles, comme à Paris. C'est la même chose. On ne se rendait pas compte, mais nous étions... Parce que nous habitions dans un endroit calme, un bel hôtel. Il ne faut pas désespérer. Il y a beaucoup d'aide. Il lui dit... Oui. Mais dans quel état elle est cette ville? Après avoir passé la journée à traîner dans la ville, en voiture, à pied, se retourner à l'hôtel pour se reposer et dîner. Une fois dans leur chambre, elle lui dit « Si tu veux, on peut dîner en ville. » Il lui demande « Où ?»« Toi, tu as du courage avec ce que l'on a vu. » Elle lui dit « Nous demanderons au concierge, il doit bien y avoir un coin tranquille. » Le concierge leur a donné une adresse d'un restaurant qui se trouve dans le 6e arrondissement, Place Lyautey. Il a été épargné, on ne sait même pas pourquoi. Enfin, ils ont dû l'oublier. Il s'appelle La Tablée. À 20h30, ils entrent dans le restaurant. Le restaurant est meublé et décoré en campagnard avec de gros meubles rustiques en sapin. Il y a de la frisette en bois sur les murs avec des tableaux de maître inconnu. Il y a quelques personnes à table. Le maître d'hôtel, un homme grand, mince, chemise blanche et pantalon noir, Il a les cheveux et une moustache noire. Il va vers eux. Vous désirez ? Elle lui dit. Une table pour deux, s'il vous plaît. Si vous voulez bien me suivre. Il les mène dans un enfilade de sol. Leur montre une table pour deux couverts. Ils s'assoient l'un en face de l'autre. Il leur demande, vous désirez un apéritif? Elle lui dit, non merci, nous avons très faim et nous avons hâte c'est de goûter à la cuisine lyonnaise. Il lui dit, la cuisine lyonnaise? Sont plus que c'est, entre les cuisines exotiques, les McDo, les restos rapides. Mais je crois que nous faisons encore un peu de la cuisine lyonnaise ici. Passe devant eux, Monsieur Janju. Frédéric dit, Monsieur Janju. Monsieur Janju se retourne. Et il reconnaît Frédéric. Frédéric, mais que faites-vous ici? Frédéric lui dit, je suis avec Jean. Monsieur Janju, salut Jean. Madame, monsieur. Frédéric dit, c'est Monsieur Janju, tu sais, la personne qui m'a aidé et qui m'a fait connaître les Francs Blancs. Il fait, ah oui, nous n'avons pas été présentés, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Monsieur Janju lui dit, ce n'est rien, j'ai fait la connaissance de votre mari dans le train, il m'a expliqué vos problèmes. Elle lui demande, vous êtes venu dîner? Il lui dit, oui, ce soir. J'avais envie de manger dehors. Elle lui dit, eh bien, venez manger avec nous. Elle fait signe au maître d'hôtel qui le fait vue de la tête. Et il les quitte pour aller chercher un couvert supplémentaire. Demi-heure plus tard, ils sont en train de dîner. Janju demande, que faites-vous à Lyon? Elle lui dit, à Paris je ne peux plus vivre. Avec ce qui s'est passé, je ne supporte plus les gens de mon quartier et j'ai mis à la porte tous mes domestiques. Alors, j'ai pensé que peut-être je pourrais vivre à Lyon. Frédéric lui dit, mais la ville paraît peu accueillante. Jean-Jules lui dit, elle est devenue une Babylone moderne, une Babylone sans foi ni loi, pleine de sorcellerie, de médecine parallèle, de choses peu reluisantes. Jean lui demande, vous croyez que vous avez trouvé quelque chose? Il lui dit, il y a encore des quartiers tranquilles, tels le mien. Il lui demande, vous habitez où? Boulevard des Belges, Angle Garibaldi, la maison en pierre, visible beige, à gauche de l'entrée du parc de la Tête d'Or. Elle lui demande, il y a quelque chose à louer dans le coin? Je ne crois pas, mais si vous permettez, je vais me renseigner. Vous logez où? Elle lui donne son adresse et lui demande, et pour une bonne école pour mon mari. Il lui dit, à Lyon, il n'y a que le lycée du parc qui est correct. Puis il discute avec Monsieur de Langy, qui leur donne des adresses pour faire des achats et des lieux de distraction tels que les concerts. Après le repas, ils se sont quittés. Deux jours plus tard, John et Frédéric sont dans leur chambre. Le téléphone sonne. John décroche.
Oui ? Bonjour, je suis Monsieur de Janju. Je crois que je vous ai trouvé une maison. Mais est-ce que ça vous va, une maison ?
Oui, bien sûr.
Bien, je vais vous prendre cet après-midi à 15h. Cela vous va-t-il ?
Oui, merci.
Dans l'après-midi, M. de Janjou leur a montré une maison qui se trouve à Charbonnières, dans une rue tranquille. La rue est étroite, elle a des arbres et elle n'a que des petites maisons fin 19e. La maison qu'il leur montre est dans un parc, entourée d'un mur, un mur haut. Le portail est en fer forgé. Derrière ce mur se trouve un parc avec des arbres centenaires. Un chemin mène à la maison de style Napoléon III. On arrive par des marches sur la terrasse, sol en pierre et rampe. On entre par une double porte. La maison a deux étages. Meublé et décor 19e, plutôt fin 19e. Hall d'entrée, avec escalier qui donne au premier, salon, bureau, bibliothèque, et au deuxième, les chambres, avec salle de bain. Il y a 5 chambres. Dans les combles se trouvent les chambres des domestiques. Le service se trouve au rez-de-chaussée. La salle à manger aussi. Tout est bien conservé. Il y a de la poussière et des toiles d'araignée. Mais autrement, ça peut aller. Il visite tout ça.
Monsieur Janju demande « Comment trouvez-vous cette maison ? Elle est formidable !»
Et dit « J'ai un ami qui tient une régie, Sébastien Delors. J'en ai parlé, j'ai parlé de vous. » Il a dit qu'il avait cette occasion. Elle lui demande « Ça doit coûter très cher. » Il lui dit, oui, assez. Mais si vous vendez vos biens de Paris, vous pourrez l'acheter. Elle lui dit, je vais réfléchir. Le quartier semble tranquille. Mais comment fera Frédéric pour aller à ses cours? Il lui dit, il ira en scooter. Les jeunes aiment bien ça.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.